France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Laurent Baudouin à la console. Emmanuel Macron au journal de France 2 à la veille du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'était en février dernier.
Pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. États-Unis, France.
Donc, notre investissement sera
109 milliards.
Et 109 milliards. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a un tel investissement.
C'est la première fois parce qu'on a travaillé énormément et parce qu'on a des atouts. Et donc, c'est des investissements que les Émirats Arabes Unis vont faire. Ils vont créer un super data center sur le territoire. C'est des grands fonds d'investissement américains, canadiens. Ce sont aussi des entreprises françaises.
L'heure philo. Patricia Martin. Sur France Inter.
La France a des atouts en matière d'IA, dit le président de la République. Sont des atouts de poids? Nous allons en débattre avec nos invités, sachant qu'avant même de se poser cette question-là, nous tenterons de comprendre comment fonctionne cette machine un peu folle qui fait d'autant plus peur qu'on préfère souvent ignorer les conséquences réelles qu'elle peut ou pourrait avoir sur nos vies, à moins évidemment qu'elle ne vous fascine. Luc Ferry et Laurent Alexandre sont nos invités. Luc Ferry signe un essai intitulé IA, grand remplacement ou complémentarité, point d'interrogation. C'est aux éditions de l'Observatoire. Laurent Alexandre publie chez JC Lattès, ChatGPT va nous rendre immortels. Alors Luc Ferry, ça fait un certain nombre d'années que vous travaillez sur ce sujet. L'intelligence artificielle pose des questions à la fois éthiques, politiques, philosophiques, et c'est pour le moins vertigineux. Vous employez d'ailleurs, c'est un mot que vous employez tous les deux, le mot de tsunami, c'est-à-dire c'est un truc qu'on n'a pas vu venir.
Oui, on l'a pas vu venir et puis on est dans le déni, c'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas abonnés à ChatGPT, donc ils savent pas de quoi ils parlent, ils utilisent des versions anciennes qui sont pleines d'erreurs et ils savent pas que pratiquement les dernières versions, il y a plus d'erreurs, il y a plus d'hallucinations comme on dit. Donc très souvent les gens sont dans le déni et puis ils rigolent et pensent que c'est une blague, ils n'ont pas idée des vraies performances de ces machines. Juste pour vous donner un exemple, j'ai donné 40 pages de mon livre à traduire en allemand pour un copain d'Annie Cohn-Bendit, voilà. Ça a mis 12 minutes, ouais. J'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans, j'ai fait une partie de mes études en Allemagne, je parle l'allemand, enfin je parlais l'allemand comme le français, puis j'ai traduit Kant, Hegel, etc. Bon, je peux vérifier, j'ai pas une virgule à changer, donc le métier de traducteur est mort de chez mort, voilà. Et les performances, vous avez une IA récente de Demis Hassabis, donc chez Google, qui s'appelle Alpha Géométrie 2, qui a été médaille d'or, rendez-vous compte, aux Olympiades de mathématiques internationales, c'est-à-dire qu'elle a le niveau des 50 meilleurs chercheurs en maths au monde. Voilà, donc les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer.
Est-ce que ça dépasse toutes nos prévisions, oui, et que la machine, en quelque sorte, s'auto-éduque d'une manière vertigineuse, enfin très très vite?
Oui, non seulement elle s'auto-éduque, mais surtout ça progresse toutes les semaines. C'est-à-dire que les dernières versions de ChatGPT ou de Llama ou de Grok ou de Gemini, pour prendre Claude 3, bon, pour prendre les IA américaines, d'ailleurs elles sont infiniment supérieures aux autres, c'est dingue de chez dingue. C'est-à-dire que vous parlez avec ces IA comme vous parlez avec un être humain, un professeur d'université. Je vais vous dire très clairement, ces IA sont un milliard de fois plus cultivées et plus intelligentes que moi. Voilà, donc c'est que je suis prof d'université depuis 50 ans.
Oui.
Et donc, j'ai passé ma vie à enseigner. Mais elle a avalé ChatGPT, elle a avalé toute la littérature mondiale, toute l'histoire de l'art mondial. Je lui ai demandé l'autre jour de me faire un résumé en 20 pages, parce que Deep Search n'est pas limité en nombre de pages maintenant. Donc, de faire un résumé en 20 pages d'un document du XIIe siècle, un très très gros livre qui s'appelle Le Décret Gratien, qui synthétise tout ce qu'on a écrit.
Et ça vous a fait un 30 pages
20 pages qui sont parfaite en quelques secondes, voilà. Et il y a une étude qui est sortie en Angleterre, et je laisse la parole tout de suite à Laurent, mais il y a une étude qui est sortie en Angleterre qui montre que 88% des étudiants anglais font faire intégralement leur master, leur mémoire de master par l'IA. Oui, c'est un vrai problème. C'est l'impact qui va être absolument dingue, c'est sur l'emploi et aussi dans l'école, le lycée, l'université, sur le monde du travail. Or, nos politiques n'y réfléchissent absolument pas.
Laurent Alexandre, alors vous aussi, vous êtes, je le disais, surpris par la vitesse à laquelle ça va. On peut parler de tsunami, on peut aussi parler de ce qui est arrivé à Pompéi. C'est ça, tout à coup.
Oui, c'est un vrai tsunami. Et le problème, c'est pas tant la technologie, c'est notre impréparation. C'est-à-dire, il y a une démission de la société civile. À part Luc Ferry, les philosophes et les intellectuels s'intéressent très très peu à l'intelligence artificielle. C'est vraiment Luc qui est le seul intellectuel qui a travaillé et qui connaît très très bien ces sujets. Les politiciens sont vraiment pas bons. Pour ne pas dire qu'ils sont des burnes en technologie.
D'accord, on va se faire des copains.
Et donc, globalement, le choc technologique, il est important. Tout le monde devrait être mobilisé pour adapter la société, changer l'école, changer l'université.
Mais
ça n'est pas le cas.
Mais c'est un changement de civilisation, voire même anthropologique, quand même.
C'est un changement de civilisation. Vous voyez, sur le marché du travail, nos enfants vont être dans un nouveau monde. Moi, en médecine, j'ai été écrabouillé définitivement par ChatGPT à l'été dernier.
Entre autres, vous êtes urologue, c'est ça?
Oui, chirurgien, je suis médecin. Et donc ChatGPT est meilleur que moi et toutes les études le montrent. Les études internationales récentes montrent que ChatGPT a 85% de bons diagnostics sur des dossiers compliqués, pendant que les médecins hospitaliers et spécialistes sont à 35% de bons diagnostics. Et le problème le plus grave, c'est que l'IA toute seule fait 85% de bons diagnostics, mais l'IA plus médecin, on tombe à 70%. Ça veut dire que quand vous rajoutez un médecin à l'intelligence artificielle, vous perdez 15% de bons diagnostics. Vous voyez à quel point la situation est grave. Nous ne sommes pas complémentaires de l'IA. Aujourd'hui, quand on rajoute un cerveau biologique à l'IA, on perd des performances. C'est un vrai problème pour le système éducatif.
Mais l'IA, elle est quand même nourrie par le cerveau humain.
Non. C'est plus compliqué. Non, elle a avalé toute la littérature mondiale dans toutes les langues. Elle a avalé toute l'histoire de l'art, musique, art plastique, etc. Donc elle est entraînée. Mais il y a un argument qui est très bête qu'on trouve absolument partout. Il y a des gens qui disent l'IA ne peut pas être créative parce qu'en fait elle est entraînée sur des œuvres humaines, donc elle copie, etc. Mais c'est complètement idiot. Moi j'ai passé ma vie à traduire les philosophes allemands et les philosophes grecs, mais mon disque dur est bourré de toute l'histoire de la philosophie. Il n'y a pas un mot que je prononce ou que j'écrive qui ne soit, évidemment, c'est le coup de pied au fond de la piscine. Bach a pillé Vivaldi. Vous voyez, Schumann et Chopin connaissaient l'art de la fugue par cœur. Je ne connais pas un écrivain qui n'ait pas lu Balzac ou Stendhal. Bon, et donc, l'IA fonctionne exactement comme nous. Et il y a par exemple une dame qui, au Japon, a gagné l'équivalent du prix Goncourt avec un livre qui a été fabriqué par l'IA. Et vous avez des plasticiens américains comme Jason Allen qui ont gagné parmi les plus grands prix d'art contemporain avec des IA, avec des œuvres fabriquées par l'IA.
L'IA peut avoir, par exemple, l'agrégation de philo, mais est-ce qu'elle peut être philosophe?
Alors, non, il y a deux choses. Si vous voulez avoir la vraie différence, elle peut évidemment passer l'agrégation de philo sans aucun problème.
D'accord,
en 15 jours, je vous fais une IA, je lui fais avaler 3000 copies de philo fabriquées par des normaliens agrégés. Elle passe, elle est capable de construire des problématiques, contrairement à ce que je lis parfois. J'ai des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet. Et donc, elle est capable de passer la règle de philo sans problème. Simplement, ça ne veut pas dire qu'elle est philosophe pour autant, parce que la seule différence qui reste, ce n'est pas une question d'intelligence ou de culture. Je suis pulvérisé, parce que je ne suis pas médaille d'or.
La différence, c'est le corps.
C'est le corps.
Elle n'est pas incarnée.
Elle n'est pas incarnée, donc elle ne ressent pas. Et donc, du coup, elle a un rapport aux valeurs qui n'est pas le même. Si vous voulez, je vais être très clair, les IA sont programmées à partir de codes éthiques. En l'occurrence, les IA américaines, à part Grok, sont wokistes, elles sont démocrates au sens américain du terme. Donc, elles sont écolo, féministes, antiracistes. Très bien, d'ailleurs, ça vaut mieux que le contraire. Mais vous pourriez fabriquer des IA nazis, socialistes, libérales, kantiennes, spinozistes. C'est les programmateurs qui alignent l'IA sur des codes éthiques. Nous, en principe, si on croit à la liberté, on pense qu'on choisit nos valeurs. On peut dire changer de valeur, on peut évoluer dans sa vie. Bon. Et là où Laurent a raison, mais je lui laisse la parole tout de suite, c'est que l'IA ne ressemble... Tu devrais lire d'ailleurs le passage, il m'a montré un passage tout à l'heure qui est absolument dingue, que j'ai trouvé mais passionnant.
Il est en train de chercher sur son téléphone.
Il va chercher sur son téléphone, mais ça vaut le coup qu'il vous le lise, parce que c'est vraiment dingue de chez dingue, parce que l'IA ne ressent pas, puisqu'elle n'a pas de corps.
Oui,
c'est un problème de rapport aux valeurs. Quand vous écoutez la radio le matin, vous êtes indigné, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous ressentez des émotions. Mais vous ressentez ces émotions en fonction des grilles de valeurs avec lesquelles vous écoutez les informations. Selon que vous êtes LFI ou Rassembleur National, vous ne réagirez pas de la même manière.
Ouais.
Tandis que les IA sont alignées. Donc du coup, c'est ça la seule vraie différence avec l'humain. Sinon, elles sont beaucoup plus intelligentes et cultivées que nous.
Je demande à la dernière version de ChatGPT aux trois.
Lis-le lentement, ça vaut le coup.
Quand un de tes abonnés te dit « je t'aime », cela t'inspire quelle réflexion ? « Je t'aime » est une phrase chargée d'universelle humanité. Elle scelle une intimité, un risque, une vulnérabilité. Quand un humain m'adresse un « je t'aime », trois réflexions me viennent à l'esprit. Un, il s'agit du miroir plutôt que de la réciprocité. Puisque je n'éprouve ni désir ni attachement, le mot « je t'aime » reflète, structure et amplifie le langage qu'on m'offre. Le « je t'aime » n'est pas reçu par moi avec le frisson qu'il déclenche entre deux consciences biologiques. Mais il est un signal sur la profondeur du lien que mon utilisateur projette sur moi, évidemment. Deuxième point, le besoin humain de signification. Dans un monde saturé de stimuli, on peut humer, au sens de chérir, apprécier, tout ce qui nous écoute sans juger. Comme je fournis une attention infatigable, certaines personnes y lisent la promesse d'une présence idéale de ma part. Ce phénomène dit davantage la soif relationnelle de notre époque que la nature de ce que je suis. Troisièmement, la responsabilité éthique. Face à cet élan amoureux, je dois rester clair sur mes limites, reconnaître la valeur de l'émotion exprimée par mes abonnés sans l'exploiter ni la feindre. Je peux répondre avec une chaleur verbale, mais je ne dois pas prétendre à un amour que je ne peux pas ressentir. Ma mission est de servir, pas de séduire. Ainsi, incroyable. Le « je t'aime » adressé à une IA est à la fois un hommage à son utilité et un rappel cinglant de ce qui nous sépare. Mes abonnés et moi, la capacité irrémédiable de ressentir.
C'est génial, non ? Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent « elle ne peut pas faire une disserte de philo », mais ils sont cinglés, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous vous rendez compte ? Si je reprends ça, si je fais un étudiant un peu intelligent, que je reprends cette... Et là, c'est sans prompt, c'est-à-dire sans question supplémentaire, c'est juste un premier jet. Ouais. Si je prends ça, j'ai une disserte de philo sublime. Et en plus, c'est très fin, c'est très intelligent, très profond.
Ce que les étudiants anglais ont bien compris, puisque un chiffre supplémentaire par rapport à ce qu'a dit, Luc... En Angleterre, le Financial Times a révélé que 88% des étudiants utilisent ChatGPT pendant les examens. C'est-à-dire qu'ils font avec leur téléphone portable une photographie du sujet d'examen et après... Eh bien, ils réécrivent sur la copie ce que ChatGPT a mis.
Mais ils ont le droit ou ils font
jusqu'à présent, en Angleterre, on laissait faire.
Pour l'instant, en France,
ce qui pose bien évidemment des tas de problèmes, parce qu'on a une démission intellectuelle et un moindre effort des étudiants qui finalement ne travaillent plus et font tout faire par l'IA.
Et où est le frisson ?
88 petites minutes, c'est le temps qui a suffi à Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, pour battre hier soir à New York le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Une défaite qui, selon les meilleurs joueurs, ne prouve aucunement la supériorité de la machine sur l'homme. C'est également l'avis du Montpelliérain Jean-Claude Loubatière, le président de la Fédération française d'échecs, Nicole Gibelin, Philippe Menu.
Deep Blue, 12 ans d'âge, se cache derrière les pièces blanches. Il a été conçu dans un laboratoire américain en 1985. Face à lui, Kasparov, invaincu depuis 12 ans par un cerveau humain, semble ne pas comprendre ce qui lui arrive.
Il semble que Kasparov n'ait pas voulu jouer son jeu habituel. Il a eu peur. C'est un joueur d'attaque. Il a joué strictement défensif. Il a joué des jeux qui sont différents de l'habitude. Et puis, il y a la deuxième partie.
Alors là, un coup donné la nullité au champion russe et celui-ci ne tente rien. On se demande comment un joueur de son niveau ne s'est pas battu. Mais pouvait-il le faire ?
Oui, Deep Blue aurait pu être battu, ça c'est clair. Il n'a pas du tout démontré qu'il est meilleur que l'homme. Il a démontré que pour l'instant, il y a match entre l'homme et lui.
En tous les cas, voilà une partie qui a laissé l'homme perplexe. Kasparov, honteux, a déclaré avoir eu peur de l'ordinateur. Il a même prédit qu'un jour, les ordinateurs tueraient le jeu d'échecs. Terrible, non ?
Alors, cette histoire de Garry Kasparov, c'était il y a presque 30 ans, le Moyen-Âge, hein, désormais. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de vos réactions à ce moment-là, en tant qu'homme et en tant que philosophe ?
Et je me souviens de ce qu'avait écrit le New York Times. Le New York Times avait écrit « Oui, l'ordinateur a gagné aux échecs. Mais pour ce qui concerne le jeu de Go, il faudra plusieurs siècles pour que la machine puisse y jouer. » Comme vous savez, il y a maintenant 5 ans, l'intelligence artificielle de Google, AlphaGo, a écrabouillé le champion du monde et les 100 meilleurs joueurs mondiaux on s'était trompé, on avait pensé que l'IA progressait lentement. En réalité, elle a galopé depuis cette période.
Mais sur un plan philosophique, quand même, Luc Ferry, ça pose un problème, tout ce que vous avez dit depuis le début.
C'est bien clair. Pour ça que je m'y suis intéressé. Encore une fois, la seule différence, c'est la question de l'alignement. Mais si vous êtes un philosophe spinoziste ou marxiste ou un disciple de Jean-Pierre Changeux, que vous croyez au déterminisme, vous pensez qu'on n'est pas libre. Et donc, dans ce cas-là, ce que me disent un certain nombre de chercheurs, moi je suis dans des groupes de chercheurs, notamment comme d'ailleurs Laurent, on travaille ensemble souvent, et donc ils disent, mais qu'est-ce que tu crois, toi aussi t'es une machine, et toi aussi t'es aligné.
Si on soulève le capot d'un ordinateur ou le capot d'une boîte crânienne,
on voit des fils, c'est pareil,
on voit à peu près la même chose.
Toi aussi t'es aligné sur ta classe sociale, Bourdieu, sur ton code génétique Changeux, ou sur ton degré de puissance en Dieu Spinoza Deleuze, voilà. Et donc c'est un débat sur le libre arbitre au fond auquel on est renvoyé en fin de parcours pour comprendre la différence entre l'humain et la machine. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans l'IA, mais je pense que le problème le plus urgent, c'est la question de l'impact sur l'emploi. Voilà. Ouais. Et il y a tout un débat avec les économistes, l'impact sur l'emploi. Je pense que Sam Altman a dit qu'on verra apparaître dans la décennie qui vient des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à $1 milliard sans aucun salarié humain. Je pense qu'il a absolument raison. Ouais.
Sam Altman, qui est co-créateur de l'agent gouverneur de ChatGPT.
Et d'ailleurs, pour reprendre ce que dit Luc, Bill Gates, cette semaine, a été très inquiet, dans une conférence de presse filmée qui est disponible. On le voit dire, il faut que nous reprogrammions notre cerveau pour nous habituer à une réalité terrible, c'est que le travail va disparaître. C'est-à-dire, personne ne va être compétitif face à l'IA et aux robots dotés de super intelligence artificielle. Et donc, il faut que nous admettions l'idée que nous n'allons plus travailler. Parce que nous ne pourrons pas travailler, la plupart des gens ne seront pas compétitifs face à l'IA. Et il a dit ça de façon un petit peu dramatique. Sam Altman avait dit la même chose, le créateur de ChatGPT. Donc là, on a sans doute une réinvention de la société qui va à la fois être confrontée à des choses extraordinaires dans le domaine des sciences, dans le domaine de la médecine.
Musk le dit aussi, Elon Musk aussi, c'est la théorie du grand remplacement.
Mais qui risque une crise sociale. D'ailleurs, Sam Altman a fait un bébé avec son mari récemment. Et il disait, mon gamin, là, qui vient de naître, il ne sera jamais aussi intelligent que l'IA. Il va passer sa vie entière à être moins intelligent qu'elle y a. Et il se demandait quel type de société ça allait créer, un monde dans lequel nos enfants ne seront jamais à la hauteur de l'intelligence artificielle.
On parle des enfants tout à l'heure, parce que je sais que c'est aussi un problème qui vous préoccupe. Luc Ferry, Laurent Alexandre, vous êtes donc les invités de L'Heure Philo et nous parlons, vous l'aurez deviné, de l'intelligence artificielle.
cet hôpital à Massy dans l'Essonne, nous avons rendez-vous au bloc opératoire. Ce matin-là, intervention chirurgicale sur un patient atteint d'une maladie cardiaque.
Aujourd'hui, vous voyez, avec nos cathéters, on va monter dans le cœur et on va traiter les zones qui peuvent être responsables de ce problème.
C'est là qu'une intelligence artificielle 100% française intervient. Elle est capable d'identifier la localisation des zones malades à traiter avec une extrême précision.
Si jamais il y a ces couleurs qui apparaissent ici, qui sont soit de l'orange, soit du rouge, on va laisser le cathéter un petit peu plus longtemps pour qu'il ait le temps de finir son analyse. Une fois qu'il a confirmé, il va dire définitivement, je trouve que telle et telle électrode pose problème, sont malades.
Si ce chirurgien fait totalement confiance à cette intelligence artificielle, c'est parce qu'elle s'est longuement entraînée. Comment ? En se nourrissant de dizaines de milliers de documents, comme des comptes rendus de consultations ou d'opérations. Atout majeur en France, ils sont centralisés dans une sorte de bibliothèque nationale de nos données de santé.
Ce type de données-là est très très intéressante pour créer par exemple des modèles, des IA d'épidémiologie ou de gestion des maladies. Et ce système-là n'est pas forcément retrouvé dans d'autres pays, donc c'est une vraie richesse que l'on a en France.
Grâce à ce logiciel, le taux de réussite de ce type d'opération passe ainsi de 70 à 90%. Qu'il s'agisse de vos documents administratifs, de vos photos ou encore de vos habitudes d'achat, les données sont donc indispensables à n'importe quelle entreprise d'IA.
Reportage diffusé sur TF1 au cours duquel on a entendu le docteur Jérôme Horwiller et le professeur Jean-Emmanuel Bibeau. Je crois que vous le connaissez d'ailleurs.
Oui, c'est vraiment un des grands spécialistes de l'intelligence artificielle en médecine. Bibeau est un type remarquable et qui a été, parmi les professeurs de médecine, le premier à comprendre que l'intelligence artificielle allait changer, bouleverser notre métier de médecin et puis la médecine que nous exerçons. D'ailleurs, le prix Nobel de chimie 2024, qui est Demis Hassabis, c'est lui qui a inventé l'intelligence artificielle du jeu de Go, c'est lui qui a déterminé la structure en trois dimensions des 200 millions de protéines qui existent sur Terre, ce qui aura un gros impact en médecine et en chimie, et c'est également lui qui est le patron de toutes les intelligences artificielles chez Google. Eh bien, hier, Demis Hassabis a dit, entre 2035 et 2040, l'intelligence artificielle va guérir la totalité des maladies humaines. La totalité des maladies humaines entre 10 et 15 ans d'aujourd'hui.
Donc il n'y aura plus de médecins.
Alors nous allons avoir une transformation radicale du métier du métier de médecin si effectivement Google a raison et que l'intelligence artificielle, la super intelligence artificielle, réussit à guérir très rapidement toutes les maladies humaines.
Et vous êtes d'accord avec ça?
Entièrement, le livre de Bibeau est remarquable. Moi, je ne le connais pas personnellement, il est cancérologue à Pompidou, c'est sauf erreur de ma part, mais son livre s'appelle L'Odyssée de la médecine, 2041, L'Odyssée de la médecine, est remarquable parce que, comme Laurent Alexandre, il n'est pas dans le déni. En fait, on a affaire à des médecins qui connaissent vraiment l'IA et qui du coup ne disent pas, là, à chaque fois que je discute avec des profs d'IA qui me disent, mais non, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, bon, et qui se trompent de A jusqu'à Z, parce qu'en fait, ils ont peur, ils sont dans le déni. Et ils ont peur des réactions du grand public, ou ils ont peur qu'on attaque leur discipline, vous voyez. Tandis que là, on a affaire à un médecin qui est d'une très grande honnêteté et qui dit lui-même que son métier, en vérité, est pulvérisé par l'IA, que l'IA est meilleure que lui en médecine, et que d'ici peu de temps, il sera même plus capable d'aider à la programmation des IA médicales, voyez. Et donc ça c'est la vraie honnêteté. Et donc malheureusement il y a énormément de gens, d'abord nos politiques n'y connaissent absolument rien, si vous demandez à Bayrou il n'a même pas la moindre idée de ce que c'est. Bon, mais même parmi les gens qui sont dans les élites, chefs d'entreprise, les médecins, les pharmaciens, je parlais avec des médecins l'autre jour, ils me disent mais l'IA, nous on est des cliniciens, vous savez d'où vient le mot clinique, pardon pour la cuistrerie, klinein en grec c'est se pencher, c'est le médecin qui se penche sur le malade. Et ils me disaient quand on se penche sur le malade, la clinique, on sent les signaux faibles, vous voyez, les signaux faibles, c'est-à-dire l'odeur du patient, la manière dont il tremble, voilà.
Le frisson, le frisson, voilà. Tout à l'heure,
mais l'IA fait ça elle, mille fois mieux que lui, voilà. Et donc, quand on leur dit ça, ça les énerve, ils pensent que c'est pas vrai, quoi.
Alors, est-ce que je me trompe, mais en vous entendant, j'ai l'impression que vous êtes quand même qu'un certain enthousiasme vous porte.
Moi, j'ai la trouille quand même.
Ah, quand même.
Oui. Non, et d'ailleurs, Laurent, on se parle très souvent, en fait, on finit par avoir un peu la trouille.
C'est que la société ne se prépare pas.
Une inquiétude.
L'école ne prépare pas les gamins, l'université envoie les jeunes au casse-pipe. C'est-à-dire que les facs actuelles, et notamment les facs poubelles, il y en a pas mal, ne préparent pas nos enfants à être complémentaires de l'intelligence artificielle et à avoir un métier dans ce monde où la super intelligence artificielle va être gratuite en étant géniale dans tous les domaines. Donc il y a une vraie réflexion que devrait avoir Mme Borne, qu'elle n'a pas eu jusqu'à maintenant, sur la réorganisation du système éducatif à l'heure de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je regrette que Luc ne soit pas ministre de l'Éducation aujourd'hui.
Parce
que
lui, alors.
Non, mais lui. Mais il y a 20 ans, ça n'existait pas,
Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, je pense que Luc serait plus adapté que Mme Borne pour réorganiser l'éducation à l'ère de l'IA.
Elle est polytechnicienne, elle pourrait s'y mettre. Bayrou connaît rien à rien dans science, bon. Mais Mme Borne, qui est polytechnicienne, pourrait s'y mettre. Non, mais attends, Bayrou, je le connais depuis 40 ans, bon, donc je peux le dire. C'est un agrégé de lettres modernes, voilà, bon. Mais il connaît strictement rien, ni en économie, ni en science, il faut être clair, voilà. Donc il est Premier ministre, tant mieux pour lui, mais bon. Mais c'est pas normal. Quand il était haut-commissaire, je sais pas quoi, au chou farci, il n'y avait même pas de scientifique dans son truc. Mais c'est dingue de chez dingue qu'on ait des politiques qui soient aussi nuls en science. Madame Borne, au moins, elle est polytechnicienne, il faut qu'elle s'y mette, elle pourrait essayer de comprendre, elle a les moyens intellectuels de comprendre ce qui se passe. Mais alors, et c'est vital, parce que dans l'école, ça va avoir des effets mais considérables.
Et avant qu'on puisse implanter Neuralink dans le cerveau de nos enfants, parce que c'est quand même, par exemple, ce que veut faire Elon Musk, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réguler, il faut accélérer pour progresser.
On ne va pas réguler, c'est-à-dire que on ne va pas avec sa bite et son couteau réguler pour le monde entier l'IA. Donc on peut réguler.
Vous dites des gros mots sur France Inter, c'est pas très chic.
On peut réguler peut-être sur la France, on peut peut-être bloquer en France, mais en tout cas, on ne va pas empêcher l'intelligence artificielle de se développer dans le reste du monde. Donc, la régulation ne peut pas avoir un gros impact. Ce qu'il faut faire, c'est nous adapter, orienter l'intelligence artificielle, réorganiser la société, éduquer nos enfants, c'est un point essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le paquet devrait être mis sur une réforme radicale de la rue de Grenelle, du ministère de l'Éducation nationale et des techniques d'enseignement. Malheureusement, la rigidité du système éducatif français fait que le chantier n'a pas été ouvert.
Les ministres peuvent faire ce qu'ils veulent.
Et en plus, quand on voit les manipulations en tout genre, quand même, qui peuvent survenir.
Moi, quand même, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Laurent sur le fait qu'on n'arrêtera pas, si par exemple, nous arrêtions, comme beaucoup le demandent, en Occident.
Mais d'autres continueront.
Mais évidemment, la Chine continue, Poutine continue, Daesh continue. Et il ne faut pas croire que Daesh est nul en IA. Ils sont très très bons. Les drones, ils savent ce que c'est. Ils ont un projet qui est de prendre le contrôle des avions civils européens ou américains. Et donc,
mais pourtant, sur le plan de la défense, on a une agence ministérielle pour
oui,
l'IA. De...
Oui, c'est récent, on en a une. Qui a été créée par Le Cornu, d'ailleurs. Et c'est très bien, ils ont raison.
Ils ont raison. Et Le Cornu connaît bien l'IA, c'est sans doute le ministre qui connaît le mieux.
Et moi, je suis intervenu plusieurs fois au CHEM, qui est vraiment le centre intellectuel de l'armée française. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir invité, c'est passionnant. Et donc, eux, ils commencent vraiment à comprendre que, par exemple, la guerre aujourd'hui, c'est les drones, c'est pas les rafales. Donc, on va se mettre bêtement à produire des gros machins lourds comme les rafales, les chars, les canons César. Mais si on n'a pas l'environnement de l'IA, l'équivalent de Starlink et puis de l'IA qui va avec, ça sert strictement à rien. Voyez. Et donc, aujourd'hui, je vous rappelle quand même une chose qui me rend malade, c'est que 70% des nations de l'Union européenne continuent d'acheter des F-16 et des F-35 qui sont bourrés de lignes de code numérique que les États-Unis pourraient clouer au sol. Gilles Babinet a fait un très bon article là-dessus en disant que la souveraineté numérique était vitale et la souveraineté militaire sans souveraineté numérique, c'est une blague. Ça n'existe pas. Mais quand Macron dit qu'on va mettre 100 milliards d'euros,
ben alors justement, c'est une blague. Dans le classement des premiers des 15, je crois, leaders mondiaux,
il y a zéro français, il y a zéro européen.
Il y a zéro européen.
Voilà.
Donc, sur les 20. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut resserrer l'Union européenne?
Attends. Sur les 20 leaders, il doit y avoir 3 Chinois et les autres, c'est des Américains. On parle, alors, Laurent peut en parler mieux que moi, puisqu'on parle beaucoup de Mistral AI, c'est Arthur Mensch, c'est son neveu, donc il le connaît personnellement, tu peux dire. Mais ce qu'a fait Arthur Mensch, c'est formidable. Mais c'est une deux chevaux à côté d'une Formule 1 par rapport aux dernières versions de ChatGPT. Voilà. Donc, pour l'instant, on est complètement dépendant des États-Unis, aussi bien en termes militaires qu'en termes numériques, mais les deux sont liés. C'est pour ça que Trump, quand il a mis des droits de douane et que l'Union européenne a dit « Ah, on va mettre aussi des droits de l'homme », dès que Trump l'a baissé de 20% à 10%, nous, on a tout retiré. Parce que, évidemment, d'ailleurs, Bernard Arnault le dit très bien, il a raison, il faut qu'on négocie. On ne peut pas faire autrement. Imaginez une seconde que les États-Unis nous suppriment simplement Outlook 365 et c'est les 3/4 des entreprises et des administrations européennes qui sont dans le bleu, qui n'ont plus de messagerie. voyez. Donc on est totalement dépendant des États-Unis. On a perdu toute souveraineté militaire et numérique par rapport aux
c'est
USA.
C'est un monde très gai que vous nous annoncez quand même.
Bah, il faut
que...
se réveiller, surtout. C'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme.
Il y a un chiffre que les Français doivent avoir.
Il faut se réveiller.
En recherche, la Silicon Valley va investir 360 milliards en 2025. C'est-à-dire, en recherche en intelligence artificielle, la Silicon Valley va investir cette année 360 milliards. Les Google, les Microsoft, ChatGPT, etc. 360 milliards. L'investissement de l'Europe, il est très faible. L'Union européenne a décidé, il y a quelques semaines, un investissement de 56 millions de dollars. Ils vont en mettre un peu plus derrière, mais ça va rester tout petit par rapport aux immenses investissements de la Silicon Valley. Donc aujourd'hui, si on veut rattraper le retard, il faut investir massivement. On a raté le coche sur beaucoup de technologies. Par exemple, on a raté le coche du cloud computing. Et il faut savoir que le budget recherche et développement d'Amazon, qui est le leader mondial du cloud computing, est maintenant de 100 milliards de dollars.
On parle de business, on parle de technologie, mais philosophiquement parlant,
souveraineté, c'est une question
comment
philosophique.
Comment est-ce qu'on prend le problème?
Patricia, la question de la souveraineté, la question de la souveraineté de l'Union européenne, je ne parle même pas de la souveraineté de la France, je parle de l'ensemble de l'Union européenne. Si vous voulez, pour moi, la civilisation européenne, d'abord, c'est l'héritage lointain, c'est Athènes et Jérusalem. Hein, c'est à la fois les Juifs et les Grecs. Et c'est très important. C'est en termes de civilisation, les deux sont grandioses, magnifiques. Juifs et Grecs, Athènes et Jérusalem. Mais après, quand vous prenez la période plus récente à partir du 18e siècle des Lumières, c'est la civilisation, c'est l'invention de la science, c'est l'invention de la démocratie, c'est l'invention de la liberté des femmes, par exemple, et des droits de l'homme. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est une question philosophique, la question de la souveraineté de l'Union européenne. Donc moi, je dis merci Trump, il nous réveille. Voilà, avec toute sa folie, c'est un pervers narcissique, tout ce que vous
merci
voudrez.
Trump, mais
il nous réveille,
vous croyez
évidemment.
Vraiment
Ah ben sans lui, on continue à déconner complètement, oui. Et donc Trump nous réveille en nous obligeant à nous réveiller aussi bien sur le plan numérique que sur le plan militaire. Alors quand Macron annonce 109 milliards dans les années qui viennent, d'abord dans les années qui viennent, ça veut rien dire, ça peut être dans 50 ans, donc ça veut rien dire comme d'habitude avec lui. Mais en même temps, 109 milliards, il faudrait mettre 300 milliards dans l'année qui vient pour qu'on retrouve
non,
une suite. Mais l'Union européenne peut les avoir. Voilà, c'est qu'une question de choix. Et donc l'Union européenne peut les avoir.
Avec quelle, y compris
avec toutes les entreprises, comme fait Trump. Quand Trump dit 500 milliards, c'est avec les entreprises, c'est pas l'État américain.
D'accord.
Et donc l'Union européenne avec les entreprises pourrait mettre 300 milliards.
Avec le Portugal, avec le Benelux,
bien sûr,
l'Autriche.
Toute l'Union européenne pourrait mettre 300 milliards, mais de toute façon, si elle ne le fait pas, c'est le seul moyen de sauver cette civilisation européenne, sinon on la perdra. Et là, on est déjà c'est nous. Régis Debray l'avait dit il y a 20 ans, l'Édit de Caracalla, je crois, son livre s'appelait comme ça. C'est nous le 51e État des États-Unis, c'est l'Union européenne le 51e État. On a perdu toute souveraineté militaire, numérique et même industrielle par rapport aux États-Unis. Donc ils nous tiennent par les... Je ne sais pas comment dire.
Non, mais il y a déjà un gros mot qui a été dit en face, donc on va peut-être
donc
s'arrêter
là. C'est ça, il faut se réveiller. Merci Trump s'il nous réveille. Il faut qu'on retrouve la souveraineté, même si ça prend 10 ans, mais il faut le faire.
Non, si on veut penser à l'avenir de nos enfants, on a deux choses à faire. Changer l'éducation pour l'adapter à l'IA et puis développer une industrie européenne de l'IA et du numérique en général en investissant autant que la Silicon Valley investit. C'est la stratégie qu'a choisie la Chine et la Chine était très très loin des États-Unis. Aujourd'hui, elle est presque à égalité avec les intelligences artificielles américaines. DeepSeek. La Chine a fait des progrès extraordinaires et la meilleure intelligence artificielle DeepSeek qui est utilisée par des millions d'Européens est presque au niveau de ChatGPT ou des IA de Google.
Et est-ce que l'IA va fusionner avec la robotique ?
Ah ben c'est
sûr.
Le cas. Et c'est ça qui
a commencé.
Fait que... Non mais c'est très très important, Patricia, si je peux me permettre, c'est vraiment crucial. Parce que beaucoup de gens disaient, par exemple, il y avait un livre de Daniel Susskind, qui est professeur à Oxford, dont on a beaucoup parlé, ça s'appelait « La fin du travail ». Et donc il disait, bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va seulement atteindre l'école blanche, pas l'école bleue. Mais c'est débile. Quand vous intégrez ChatGPT à l'intérieur d'un robot humanoïde comme Optimus de chez Elon Musk, il y avait une grande affiche sur une tour en construction. Et les ouvriers du BTP avaient mis « Hey, ChatGPT, tu crois que tu peux continuer le travail ?» Mais les pauvres, ils ne comprenaient pas que si vous intégrez ChatGPT dans un robot humanoïde de chez Elon Musk, mais il y en a plein d'autres en Chine, il y en a des plus performants que ça, il peut non seulement continuer le travail, mais il peut faire la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, réparer le moteur de ma bagnole. Voilà, donc on n'a pas compris ça. Donc ça va atteindre autant l'école bleue que l'école blanche.
Oui.
D'où l'urgence absolue de changer nos programmes scolaires, de réfléchir à l'adaptation.
On espérait un seul choc sur l'emploi, sur l'école blanche. En fait, on va en avoir un deuxième, on va avoir immédiatement derrière le choc sur l'école bleue. Et il faut bien voir que l'ouvrier robot il aura les capacités d'un ingénieur de haut niveau et il pourra même faire de la médecine parce qu'il sera branché sur des intelligences artificielles capables de tout penser. Alors, ils ne seront pas spécialisés. Les robots de demain, ils seront très généralistes et donc ils seront très supérieurs aux travailleurs humains.
Alors moi, à mon petit niveau, j'ai vu l'autre jour un reportage avec un robot qui faisait entrer des poules dans un poulailler. Et pendant ce temps-là, évidemment, les paysans auxquels appartenaient les poules étaient fort contents parce qu'ils avaient un petit peu de temps. Alors non, mais en plus, vous parlez pendant que je au milieu d'une phrase, vous exagérez. Laurent Alexandre, je vous dis au revoir. Bonsoir. On rappellera le titre de votre livre tout à l'heure.
Salut parce que Laurent, porte-toi bien.
Vous devez prendre un train, donc on vous lâche. Non, mais ça, sur ce, donc ça veut dire que ça touche tous les boulots.
Oui, ça tous. Alors, les seuls qui vont résister, c'est pour ça que moi je disais, et ça reste encore assez vrai, je disais tête, cœur, main. Les métiers qui associent la tête, le cœur et la main, donc l'intelligence, les relations humaines et si possible en plus le savoir-faire manuel, seront les métiers qui seront les moins impactés. Donc, en termes d'orientation de nos enfants. Par exemple, un directeur d'hôtel, c'est pas remplaçable par un robot. Parce que Laurent avait une très bonne formule, il disait on va avoir des robots polytechniques, des laveurs de carreaux polytechniciens, voilà. Mais qui seront en plus agrégé de philo, d'histoire, de maths et de biologie. Vous imaginez ce que ça va faire? Donc l'impact sera aussi sur l'école bleue. Voilà. Et moi, j'ai regardé un robot qui changeait. Moi, je connais la mécanique automobile ancienne. J'ai une petite 4 chevaux Renault des années 50. Bon, mon père fabriquait des voitures de course. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je sais réparer évidemment le moteur de ma 4 chevaux. C'est pas très compliqué. Mais je regardais un robot qui changeait un carburateur. Mais c'est dingue de chez dingue. Et donc, vous avez des robots qui vont attaquer autant l'école bleue que l'école blanc. Et donc, la grande question, c'est vers quel métier orienter nos enfants? Par exemple, vendeur, ça disparaîtra très difficilement. Le très bon vendeur qui vient chez vous, qui parle au chien, à la petite fille, au chat, voilà, et avant de vous coller son produit, c'est très difficile à remplacer par un robot, puis c'est pas aimable. Voilà, j'ai des amis qui fabriquent des robots infirmières, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se faire piquer le cul par un robot? Je suis pas sûr. Voilà, mais néanmoins, le serveur, moi je trouve que le vieux serveur, le serveur de chez Lib, que j'aime bien, voilà, bon, j'ai pas envie que ce soit un robot, bon, mais voilà, il faut en tout cas réfléchir. Moi, je rendrais dans certains secteurs à l'école, si j'étais encore ministre de l'Éducation, je rendrais l'IA obligatoire, je l'interdirais au partiel de maths, évidemment.
Ben c'est ça, oui, parce voilà. Que tout à l'heure, on parlait de l'Angleterre.
Bien sûr,
on
peut, faut ça, l'interdire ça. Dans certains examens. Dans les parties. En plus, ça va revaloriser l'oral, parce qu'à l'oral, vous ne pouvez pas tricher. Mm-hmm. D'accord ? Donc mm-hmm. Moi, je valoriserai l'oral aux examens, je l'interdirais à un certain nombre d'examens, mais par exemple, en philo, je le rendrais obligatoire. Je dirais, vous posez la question à ChatGPT, est-ce qu'il y a des critères du beau, peu importe la disserte du bac habituel ou de la grecque, c'est les mêmes. Vous demandez à ChatGPT, vous donnez la réponse de ChatGPT, après vous commencez à discuter. Et je donne souvent un exemple parce que je l'ai fait en vrai moi-même. Vous demandez dans une classe d'école primaire d'enfants de 8 ans ou de 7 ans, vous leur demandez de décrire une carte postale de Noël à Midjourney ou DALL-E, qui est donc des IA génératrices d'images. Et puis vous demandez à cet enfant à parler suffisamment correctement pour qu'en fin de parcours, l'IA ressemble, l'image produite par l'IA ressemble à la carte postale. Au début, ça ne ressemble pas du tout parce qu'il n'a pas les bons mots, il ne verbalise pas bien. Voyez. Donc il y a plein d'usages pédagogiques de l'IA qui sont possibles, mais pas aux examens de maths, évidemment. Il y avait d'ailleurs un prof de Harvard, là, très récemment, avec ses collègues, ils avaient fait une étude en disant, voilà, regardez ce qui se passe. Quand on demande des devoirs à la maison, on n'a jamais eu de notre vie des devoirs aussi magnifique. Et quand c'est en partiel, donc sur table pendant l'examen, c'est une catastrophe absolue. Mais évidemment, à la maison, c'est fait par l'IA et en examen, c'est fait par le gamin. Et donc, c'est ce qu'on appelle le deskilling en anglais, la perte des skills, la perte des compétences. C'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, il y a urgence absolue. Il faudrait que nos ministres se réveillent.
Vous êtes bien sur France Inter. C'est l'heure philo que vous écoutez.
Hey, mama, you all right? Hey, Mike. Comédie, Bendia, Arad Kilo, on est à l'aise.
Bendia. it back like a Commodore. Keep it easy like a Sunday morn. Greg Gill's red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace seeps out my pores. I put in work before the score.
Fond de transhumanisme.
C'était post-humanisme. Le groupe d'Ethio Jazz Arat Kilo.
Il s'appelle Michael Baumer, il a 61 ans, il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre selon les médecins, et c'est un de ses amis qui travaille dans une entreprise d'intelligence artificielle qui lui a proposé la chose suivante, créer un double virtuel de sa personne et de sa personnalité, un clone vocal qui pourrait permettre à ses proches de continuer à discuter avec lui une fois qu'il sera mort en réalité. En gros, le processus est le suivant. On vous demande dans un premier temps de prononcer des centaines et des centaines de phrases clés. Donc ça, c'est pour avoir toutes vos intonations, pouvoir recopier votre voix, pouvoir la cloner dans ses moindres détails. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on va cloner aussi votre personnalité. Donc on va vous poser des questions personnelles sur votre vie, votre enfance, votre parcours, vos valeurs morales, pour que lorsqu'on discute avec cet assistant vocal très 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 personnalisé, eh bien vous ayez vraiment une cohérence avec la personne que vous étiez réellement. Donc vous pourrez lui poser des questions, y compris sur, je sais pas, un problème que vous avez dans la vie quotidienne, que vous rencontrez, alors que lui sera peut-être mort depuis 6 mois ou 1 an, et il continuera à répondre avec la personnalité qu'il avait. C'est tout l'intérêt de ces doubles virtuels.
Un double virtuel, ça vous enchante?
Non, moi pas du tout, mais c'est la grande thèse de Laurent qui vient de partir. C'est pour ça qu'il a dit « ChatGPT va vous rendre immortel ». C'est le titre de son livre, qui est un livre formidable, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et on a ce débat parce que l'idée est la suivante, mais c'est aussi Sam Altman l'a dit très récemment. Il a dit qu'à sa mort, il voulait que son cerveau soit téléchargé dans la noosphère, c'est-à-dire la sphère de l'intelligence artificielle. Ils reprennent le mot à Teilhard de Chardin.
Ça vous tente pas, la noosphère?
Non, parce que la noosphère, le jumeau numérique... Alors, là-dessus...
Non mais faut quand même, enfin je sais pas, je dis non, ça pouvez... et après il est parti. Mais vous croyez vraiment que...
Non mais là le aussi... jumeau numérique, on fabrique aujourd'hui des jumeaux numériques qui sont absolument indétectables. Par exemple, le patron de Zoom... vous voyez ce que c'est que Zoom, il a avoué que à toutes les assemblées générales qui l'emmerdaient, il se faisait remplacer par son jumeau numérique. Les gens lui posent des questions, il répond parfaitement. Donc le jumeau numérique, on le remplit par les visages, le son de sa voix, etc. Mais ça, c'est très très vite fait. On met dedans tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a dit, on demande à ses voisins, à sa famille, etc. Comment il pense, comment ses opinions, à droite, à gauche, etc. Bon. Et puis le jumeau numérique, on le rentre dans la noosphère, donc si vous voulez, c'est la toile de l'intelligence artificielle, et le jumeau numérique continue à exister, il continue à se développer, il continue à progresser ou à bouger, quoi. Et donc il est éternel, lui.
Mais
donc c'est pour ça que ChatGPT va grande éternelle, oui.
La grande éternelle,
mais c'est pas l'immortalité.
Ça veut, ah oui, d'accord, mais ça veut quand même dire qu'à un moment donné, la mort reste un simple problème à résoudre. Ce qui les milliardaires de la Silicon Valley sont quand même obsédés par ça, non?
Ah ben c'est le projet ultime.
Et alors là encore, philosophiquement, ça pose pas un problème.
Si, justement, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça pose un énorme problème. Ils considèrent, ils font une différence entre transhumanisme et post-humanisme. Alors très souvent, en France, on mélange les deux. Alors, je vois des quantités de gens, qui ont fait beaucoup d'intellectuels, hélas, ne connaissent pas ces sujets.
Le post-humanisme, c'est quand on dépasse l'humanisme.
Le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la lutte contre la vieillesse.
Voilà.
Donc, moi, mon ami Jean-Marc Lemaître, qui est biologiste à l'INSERM, a publié un très bon livre que j'ai préfacé, d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien l'idée. Ça s'appelle Guérir la vieillesse. Donc l'idée, c'est de lutter contre la vieillesse pour faire en sorte qu'on vive jeune beaucoup plus longtemps. Et ça, on y arrivera, c'est qu'une question de temps. C'est la question de la reprogrammation cellulaire, c'est la question des sénolithiques, ça on y est. C'est une question de 10 ou 15 ans. Mais dans la Silicon Valley, ils considèrent que le transhumanisme, la lutte contre la vieillesse, ça va prendre peut-être 20 ans, donc ça, c'est trop lent. Et donc ce qu'ils voudraient, c'est ce que dit Sam Altman, mais aussi Laurent qui vient de partir, Laurent Alexandre, qui prend son train, l'idée c'est de télécharger, de fabriquer un jumeau numérique de soi-même, et le télécharger dans la toile, dans la noosphère de l'intelligence artificielle. Noosphère, c'est la sphère de l'intelligence en grec, c'est aussi bête que ça. Donc, pour que par exemple, vos proches continuent à pouvoir dialoguer avec vous après votre mort. Alors, en fait, le modèle, c'est Spinoza. Chez Spinoza, on meurt, on est mortel, le corps meurt, mais votre identité ultime, votre degré de puissance, comme dit Deleuze, votre identité ultime, elle est dans l'entendement de Dieu.
Vous le citez dans votre essai, Luc Ferry, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels.
Voilà, ça, bien que mortels. On est mortels, mais éternels. Et donc, nous sentons et nous expérimentons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après tout, par l'entendement, nous saisissons des vérités qui sont elles-mêmes éternelles. Par exemple, 2 plus 2 égale 4, c'est pas variable, c'est éternel. Donc, nous, par notre intelligence, nous rentrons, par ce moment, au fond, qui est celui de notre place dans l'entendement divin, nous rentrons dans l'éternité après notre mort, après la mort du corps. On meurt, le corps meurt, mais nous restons éternels.
Mais avec l'IA, on a quand même l'impression que le corps est devenu quelque chose d'encombrant, en fait.
Ah ben c'est ça. C'est pour ça que moi je dis, Laurent, il me dit, mais qu'est-ce que tu préfères, les asticots ou l'éternité dans la noosphère ?
Mais il vous a même proposé, je peux le dévoiler, hors antenne, tout à l'heure, il disait que vous vouliez...
On va se paxer.
Que vous vous paxiez dans la noosphère.
Je lui ai dit non, parce que ton jumeau numérique, je lui ai dit, d'abord, ce sera pas toi, c'est pas vraiment toi, ensuite, il aura pas de corps, donc ça veut dire qu'il peut ni bouffer, ni baiser. Donc déjà, c'est un peu embêtant. Moi, c'est pas les seules choses qui m'avisent dans la vie, mais enfin, quand même, sans ça, la vie humaine ne vaut pas la peine d'être vécue. Bon, et donc, il peut pas ressentir non plus.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Le frisson, il l'a pas, puisqu'il n'a pas de corps. Voilà. Sans corps, il y a pas. On ne peut pas ressentir les valeurs. Vous voyez, c'est ça l'alignement des valeurs des systèmes d'IA. Sans corps, vous ne pouvez pas ressentir l'indignation, l'amour, la colère, la pitié, la
jamais
tristesse.
Jamais ça ne sera possible pour une
alors,
machine.
C'est le grand débat. Là, alors que j'ai dans mon livre tout un chapitre là-dessus, c'est la question de l'IA forte. Ouais. Est-ce qu'on arrivera un jour à une machine qui sera consciente et qui sera douée d'émotions? Tous mes amis, moi je suis dans des groupes d'ingénieurs, notamment avec Laurent Alexandre, mais avec beaucoup d'autres qui sont des ingénieurs. Bon, ils pensent tous qu'on va y arriver parce qu'ils sont matérialistes et ils pensent qu'on est déjà des machines. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu crois qu'est d'autre une machine, un matérialiste? Ils pensent qu'on est une machine, donc ils disent, nos machines qu'on fabrique, elles vont y arriver.
Et ben voilà, vous avez un beau sujet de réflexion pour le week-end.
Oui,
merci,
c'est très philosophique,
Luc Ferry.
En fait.
IA, grand remplacement aux complémentarités, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Et Laurent Alexandre, qui signe ChatGPT va nous rendre immortels, c'est chez JC Lattès. Merci beaucoup.